En fait, comme la chanson était devenue plus connue que moi, et vu que finalement Jean-Luc Le Ténia c'était moi, ça m'a paru tout naturel de m'appeler Jean-Luc Le Ténia.
Alors, que je vous explique. Je m'appelle Damien Jodot, je suis auteur de podcast et je viens du Mans, dans la Sarthe. J'ai décidé de lancer mon nouveau projet de podcast documentaire sur une gloire locale de la musique underground, Jean-Luc Lecourt, alias Jean-Luc Le Ténia.
Jean-Luc Le Ténia.
Il s'est donné la mort il y a 11 ans, en 2011, à l'âge de 35 ans.
La grande brune s'est pointée au Mans pour attirer dans ses filets un drôle de zig, encore un type unique en son genre, Jean-Luc Le Ténia. Jean-Luc s'en est allé donc, nous laissant méditer sur cette ville qui aura fini par l'engloutir. Nous laissant gamberger sur cette ville à la fois paisible et engourdie, attachante et croupissante, une ville où il fait bon vivre sans que jamais rien ne s'y passe vraiment. Une ville où finalement, rester, c'est peut-être mourir un peu.
Tout ça part d'une discussion avec mon cousin Guillaume à Noël dernier. Je lui avais demandé s'il y avait eu des artistes du Mans qui avaient percé au niveau national. Personnellement, je me souvenais que d'artistes populaires comme Emmanuel Moir ou Leslie. Et c'est là qu'il m'a parlé de Jean-Luc. Et après le réveillon, j'ai fait quelques recherches. L'avantage, c'est qu'il y a énormément d'archives sur internet, puisque Jean-Luc a laissé son site, Ténia Diary, avec plus de 1000 chansons et 30 albums autoproduits disponibles gratuitement, et un journal qui va de 1995 à 2011. Techniquement, ces chansons sont assez simples. Il y a une guitare, un synthé, quelques accords et une voix nue.
Tu me rencontres et tu es déçu, comme je te comprends. Tu me croyais mieux que les autres, je ne suis pas différent.
Mais ces chansons, elles pouvaient parfois loufoques, c'est ce qui plaisait, mais le plus souvent, ça parlait de son quotidien, de la solitude, de ses amours contrariés.
C'est un croisement entre Django Edwards et Dominica.
Mais une autre chose que je vous ai pas dite et qui rend cette histoire très intéressante, c'est que Jean-Luc était à la base un simple employé de la médiathèque du Mans. Et pourtant, il a croisé la route de Dominique A, Mio Sec, Philippe Catherine, Didier Vampas, Ariel Wiesmann, même Chloé Delhomme.
Je te recroiserai sûrement à la médiathèque, où je crois que tu feras semblant de ne pas me reconnaître. Moi je resterai souriant en pensant que peut-être un jour je serai intelligent et bon comme des rillettes du Mans.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a joué à la Cigale et au Bataclan. Il a été invité sur le plateau de 20h dispétante sur Canal+, au début des années 2000. Il a eu droit à une petite notoriété dans la presse parisienne avec des articles sur lui de Télérama, Elle, Technique Art ou même des passages sur France Inter. Et plus je me plongeais dans cette histoire et dans ses chansons, et plus j'étais intrigué. Et très très vite, j'ai eu envie de parler de lui, de son parcours, de comment un mec tout seul avec sa guitare, employé de médiathèque, avait pu devenir une sorte de légende du Mans, et à percer via des chemins de traverse et à attirer l'attention d'artistes plus reconnus. Alors, je suis loin d'être d'accord avec tout ce que Jean-Luc a pu produire, mais son histoire me fascine, en fait. Et plus je fouille dans la vie de Jean-Luc, plus j'ouvre des tiroirs sur des univers qui m'étaient complètement inconnus. Les scouts, son rapport au Mans, la bande dessinée, ce que c'était que d'être ado au Mans dans les années 90, son rapport au succès, ses soucis de santé mentale, la scène musicale de l'époque, tout était intéressant, j'avais envie de tout explorer. Et je crois que c'est aussi une manière pour moi de redécouvrir ma ville, le Mans. Une ville dans laquelle je m'ennuyais beaucoup à l'époque et que j'ai quitté en 2010, pour aller plutôt à Paris. Donc l'histoire de Jean-Luc, ça me permet d'explorer mon propre rapport au Mans aussi. De l'explorer dans le passé comme si je partais en week-end dans une capitale européenne. Ça réenchante la ville. Je pense que pour bien faire les choses, je peux pas avoir un nombre d'épisodes qui soit vraiment fixé à l'avance. Parce qu'il y a trop de pistes, il y a trop de gens à interroger, trop de pistes à explorer. Je pense que c'est la meilleure forme que je peux avoir pour ce projet. Ce qui me permettra, moi aussi, de vraiment d'aller au fond des choses. Donc, j'ai décidé de m'autoproduire. J'ai décidé de m'autoproduire et donc je vais devoir apprendre à faire beaucoup de choses. Donc des choses que je savais bidouiller, mais qu'il va falloir que je fasse à un niveau un peu supérieur, donc ça va être compliqué. Donc faire un montage correct, choisir une narration, un ton, des musiques, retrouver les gens moi-même, caler des interviews, et essayer de rendre tout ça digeste et intéressant. C'est un gros projet, enfin, c'est un peu fou, mais je sens que j'ai viscéralement envie de le faire. Ça me tient vraiment à cœur, j'ai envie de raconter cette histoire. Mais j'espère que ça va vous intéresser, parce que moi ça fait presque un an que ça me passionne et que je me suis plongé dedans et que je suis parvenu à la surface. Et maintenant je vais dire une belle petite phrase. Je suis Damien Jodot et vous écoutez Jean-Luc.
Jean-Luc, 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 Jean-Luc.
Donc normalement je dois prendre à droite vers un certain hôtel Ibis pour retrouver Tony Papin qui doit m'attendre avec sa bagnole.
Il y a Tony Papin, donc c'est un sacré bonhomme quoi, que j'ai connu il y a longtemps en classe de seconde quoi, au lycée Bellevue. Et au début on faisait pas de la musique, on faisait surtout des conneries ou du dessin, des bandes dessinées, tout ça ensemble. C'est vraiment quelqu'un de créatif quoi, et de drôle et intelligent quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un ami quoi. Et...
Donc il m'a dit boulevard Solferino. D'accord, donc ouais, je suis sorti de la gare, l'hôtel Ibis. Ah. Oh, je le reconnais, il est. Un truc un peu poivre et sel, une barbe poivre et sel. Quelqu'un d'assez fin, un peu athlétique quand même. Bon, je sais à quoi il ressemble. Ah bah voilà, il m'appelle. Salut Tony.
Te fais pas renverser.
Ouais, non, bah, je te sors la main quand même.
Bonjour. Très bien.
Salut.
Louison.
Louison, bah Damien, enchanté. Donc du coup, Tony est venu avec Louison, sa fille.
Ma plus jeune fille.
La plus jeune fille qui est en seconde, c'est ça? Ouais, donc, enfin, j'imagine 15 ans, t'as pas dû connaître Jean-Luc, toi.
Je sais pas.
Bah,
j'en ai pas souvenir.
Non, t'as pas de souvenir, je pense pas.
Ouais. Il est décédé en 2011, t'avais quoi? T'avais 2011, il y a 11 ans, t'en as 15, j'imagine 14-15.
Donc t'avais...
Ouais, voilà, donc c'est dur d'avoir des souvenirs, quoi.
Adèle, mon aînée, a plus de souvenirs.
Mm-hmm.
D'ailleurs, elle était ok pour venir en parler.
Ah, bah parfait.
Je m'appelle Tony, j'ai plein de copains, des forts, des blonds et des petits malins.
On parle souvent aux enfants du fait qu'ils fantasment un peu sur les années 80-90 comme un truc cool.
Ouais.
Ils appellent ça aesthétique, ils passent leur temps à dire
oui,
que c'est aesthétique.
Ça. Ouais, ça.
Mais je leur dis, mais c'était pas ça, quoi. C'était pas le côté...
En ce moment...
C'est pas un clip de Blondie, les années 80.
Pas du tout, ouais. Donc du coup, arrivé chez Tony, on a pris un bon petit goûter, c'était sympa. Et du coup, là, je suis dans son bureau où il y a un gros carton, notamment avec des photos et surtout les cassettes de Jean-Luc. Ça fait quelque chose de voir ça vraiment, ce qu'on sent, c'est la patte de Jean-Luc, en fait. C'est des vrais dessins, parce que d'habitude, je les vois de manière numérisée.
Donc il y a certaines, c'est des photocopies, d'autres, ce sont des dessins originaux, des collages, en fait. C'était des cassettes uniques. Donc, la plupart des cassettes, il est tiré à 10-20 exemplaires. Les pochettes sont photocopiées et les cassettes sont dupliquées avec un magnéto double cassette. En fait, il y avait une cassette originale et on faisait play avec l'une et on enregistrait sur l'autre. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une cassette audio, moi, ça me semble une évidence, mais voilà. Après, il y a des gens qui découvrent un peu ce format un peu à part. Et voilà, c'était comme ça, c'était très artisanal. Donc, en fait, ces albums... avait tendance à être très gourmand parce qu'il fallait remplir une cassette de 60 minutes, alors qu'un album, maintenant, ça peut faire que 20 minutes si on veut. Si on voulait faire un album plus court, il fallait acheter des cassettes faites sur mesure. Ça pouvait se trouver quelquefois des cassettes de 30 minutes. Mais par exemple, moi, je sais que j'avais fait une cassette. J'avais voulu lancer une espèce de pseudo mini-label qui s'appelait Interzone. J'avais fait une cassette de 21h matin qui était le groupe, le pseudo-groupe de Jean-Luc. En fait, c'est Jean-Luc avec plein d'invités. Et donc là, j'étais allé dans un studio pour commander des cassettes d'une durée bien spécifique qui correspondait à la durée de l'album. Voilà.
Mais tu as montré le grenier où il y avait même les bouquins de Jean-Luc, beaucoup de bouquins d'espionnage, beaucoup de bouquins sur la psychanalyse aussi. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Beaucoup de photos. Donc là, je pense que j'ai passé une bonne partie de mon week-end à regarder tout ça. Et puis toutes les lettres, tous les courriers que tu as retrouvés.
Des dessins aussi, des productions, des fanzines. Alors ça, j'essaie de trier un peu.
Ah oui, on dit fanzine ou fanzine?
Moi, je dis à la française, fanzine.
Ouais.
J'ai toujours dit comme ça, en fait. Je ne me suis pas posé la question. Donc, il y a des interviews, il y a des souvenirs. Là, c'est encore des lettres. Donc, j'avais dit que j'avais bien trié, mais c'est faux. Là, j'ai des dessins, des tracklists de concerts.
Là, en fait, pour l'instant, on balaye un petit peu tout ça. Je crois que c'est vers 2008 ou 2009. Jean-Luc te signe un papier comme quoi tu es responsable de l'œuvre de Jean-Luc en ligne au cas où il y arrivait quelque chose. Quoi.
Ouais, il l'avait formulé, il l'avait écrit sur un papier en disant qu'il souhaitait que dans tous les cas, je restais le propriétaire de son site internet, en fait. Il n'y avait rien qui reliait le site internet à lui. Enfin, il avait des codes d'accès, ce genre de choses, mais il avait cette crainte de dire... il faut qu'on mette les choses au clair pour dire j'ai le droit de mettre cette musique en ligne. Voilà, il y avait une valeur aussi, une valeur. Donc il l'avait formulée. Je pourrais retrouver les échanges de lettres. Enfin, j'avais dû garder à l'époque, justement, dans les courriers, pourquoi on en est arrivé là. J'ai un peu oublié, mais on pourrait dire est-ce qu'il avait prévu sa disparition. Je ne sais pas. C'était quand même quelques temps avant, quand même. Mais voilà, ça a été formulé, et maintenant, moi, c'est le seul document qui me rattache, qui me donne un droit sur de faire ça, en fait, par rapport à ses ayants droit. Mais ça n'a aucune valeur juridique, hein, c'est un papier qui m'a écrit. Mais voilà, il y a cet accord un peu avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, où ils sont OK pour continuer à faire vivre sa mémoire par ce biais-là.
Je voudrais surtout pas mourir avant d'avoir pu mettre toutes mes chansons sur CD et pouvoir le rassurer.
Donc ensuite, est-ce que ce boulot d'archivage, est-ce que c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie? Et est-ce que c'est quelque chose où, au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre parce que t'as aussi une vie perso, t'as aussi des projets de ton côté? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui te plaît de replonger un peu là-dedans et de faire revivre un petit peu la mémoire de Jean-Luc?
Bah, c'est par vague, en fait. C'est lié aussi aux rencontres, en fait. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me contacte pour me demander des informations, soit sur une archive... En fait, c'est ça qui va me donner encore envie de... J'ai une masse d'archives qui est assez conséquente. Et je pourrais presque y passer une année à temps plein pour continuer à numériser, ressaisir les lettres, renumériser toutes les cassettes. Plus j'en fouille, plus j'en trouve en fait encore des choses. Numériser des dessins, je retrouve des trucs dans les lettres. En fait, en ouvrant les vieux courriers, je retrouve des dessins qui me semblent être intéressants, que je pourrais scanner, numériser. Enfin, voilà, donc c'est... Ça ne me prend pas beaucoup de temps, parce que ça me prend le temps que je lui donne, en fait. Donc ça fait 10-11 ans que Jean-Luc est disparu, et j'ai toujours pas vu le bout du truc, quoi. Parce que je ne l'ai pas fait non plus à temps plein, de façon très intensive dès le début, je le fais au fil de l'eau, quoi. Puis voilà, puis après, c'est des rencontres qui me font aussi me dire, peut-être qu'il y a un intérêt, le fait de numériser les courriers ou les mails, c'est des choses qui me sont apparues un peu comme importantes, après des rencontres de personnes qui me posaient des questions sur des aspects biographiques ou c'est des rapports ou sur des questions que je pouvais avoir avec Jean-Luc. Et on oublie les choses, en fait. Et en fait, les écrits me permettent, moi, de me replonger là-dedans et de remettre les choses au clair, de dire « Ah mais oui, en fait, finalement, j'avais complètement oublié » ou peut-être qu'il y avait une anecdote que je pensais venir de quelqu'un d'autre qui venait de moi, ou l'inverse, où je pensais que c'était quelque chose qui m'était arrivé, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas à moi que c'était arrivé. En fait, la mémoire, quand on la creuse, elle se fausse un peu. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs personnes qui s'intéressent à ça, et ça permet aussi de multiplier les sources de recherche, l'étude de ces archives, et c'est ce qui les rend plus pertinentes, je pense aussi.
Mon ami, souviens-toi du lycée Bellevue. Souviens-toi du lycée Bellevue. Souviens-toi du lycée Bellevue. Souviens-toi du lycée Bellevue. Tony.
Donc Jean-Luc avait écrit un petit texte où il raconte notre rencontre. Donc je vais me permettre de le lire, de le citer. Je me souviens bien de ma première rencontre avec Tony Papin. J'étais en train de me demander comment résoudre un problème de calcul plutôt balèze lorsqu'il franchit la porte de notre classe de seconde. s'avança et s'assit à côté de moi. Depuis ce jour, nous sommes amis et je l'ai vu respectivement coiffé à la John Lennon, à la Morrissey, à la Henry Rollins et enfin à la Tom Tom du Bouchon. J'ai vu ses premières bandes dessinées, Copains et Copains si je me souviens bien, et je suis drôlement fier de faire l'édito de son recueil de Scotch and Pellicilline. Bonne lecture à tous.
Souviens-toi du lycée Bellevue. Souviens-toi du lycée Bellevue. Souviens-toi du lycée Bellevue. Souviens-toi de la statue.
Notre première rencontre au lycée Bellevue. Donc, pour mettre dans le contexte, moi j'ai un an de plus que Jean-Luc. Donc j'étais arrivé au lycée l'année d'avant et j'ai redoublé ma seconde. L'année où je suis... ma deuxième année, pour ma deuxième seconde, en fait, je me suis retrouvé dans la classe de Jean-Luc et il y a eu un problème de classe au tout début. J'étais mal... j'avais été mal... pas mis dans la bonne classe et donc je suis arrivé peut-être après un jour ou deux de retard. Et je me souviens que Jean-Luc racontait l'anecdote, moi j'avais un peu oublié ça, mais j'étais rentré dans la classe en disant « Bonjour, je suis le petit nouveau ». Ce qui avait fait rire Jean-Luc parce que je fais 1m80 et Jean-Luc, voilà, ça l'avait fait rire. Et je ne m'étais pas assis à côté de lui au premier cours où j'étais. Par contre, je me suis retrouvé assis à côté de lui en cours d'art plastique. Et on s'est mis à discuter un peu. On s'est rendu compte qu'on avait des goûts communs sur des choses. Et je me souviens surtout d'un des sujets d'art plastique. Alors, c'était peut-être pas le premier, mais c'était dans l'un des premiers où notre prof nous avait fait dessiner d'abord, dans un premier temps, un cylindre pour faire un effet de perspective. Voilà, ça nous expliquait en gros comment, avec des dégradés de gris, on arrivait à suggérer le volume. Et donc, on se retrouvait tous avec un cylindre, un pseudo-cylindre, quoi. Et on devait, ensuite, après le sujet, lui donner un environnement. C'est-à-dire faire quelque chose autour de ce cylindre pour lui donner un contexte, du sens, quelque chose comme ça. Et je ne me souviens plus trop de ce que j'avais fait. Peut-être une cheminée de centrale nucléaire. Enfin, un truc vraiment pas intéressant. Et Jean-Luc, lui, par contre, avait fait quelque chose qui m'avait beaucoup fait rire. C'est qu'il en avait fait un éléphant qui rote. C'est-à-dire le cylindre était devenu la trompe de l'éléphant. Il avait écrit un énorme burp sur sa truc. Et je crois que ça n'avait pas du tout fait rire la prof d'art plastique. Moi, par contre, ça me faisait beaucoup rire. Je crois que Jean-Luc me l'avait offert. Ça se trouve, je l'ai encore dans un carton à dessin, cette œuvre. Et voilà. Donc, ça avait bien posé le personnage parce qu'il... Il avait un côté un peu provoque, un peu, et il faisait rire aussi.
Qu'est-ce que vous aviez en commun ? C'était plutôt musical, artistique ? C'était comment ? Est-ce que tu as des références ?
Bah, c'était des trucs un peu potaches de lycéens. On avait, bah, musicalement, on s'est rendu compte qu'on avait des goûts communs sur des choses. Je ne saurais pas dire exactement, mais je sais que moi, à l'époque, j'écoutais du rock alternatif français, Berruyer Noir, Ludwig von 88, lui aussi. Enfin, en tout cas, on connaissait ces choses-là. Mais je sais que Jean-Luc, après, on en avait parlé aussi, il aimait aussi la house music. Donc, aimer les deux, c'était déjà pas banal en soi. Et puis, ben, en fait, je pense qu'il avait une énorme curiosité, et surtout, ben, moi, j'étais aussi curieux de découvrir plein de choses, parce que j'étais vraiment formaté par le fait que j'habite dans un village de campagne, où j'avais pas accès à forcément une masse de culture très diversifiée. En gros, j'avais accès à ce qui passait à la radio, ce qui passait à la télé. C'était très mainstream, quoi. Et donc, à cet âge-là, moi, j'avais une grande curiosité pour des choses qui étaient en dehors de ce champ de la culture, quoi. J'avais pu expérimenter en colonie de vacances le fait qu'il y avait des personnes qui venaient de Paris, qui nous avaient fait découvrir justement les Berruyer Noir et Ludwig von 88. Et pour moi, ça a été un choc esthétique parce que je connaissais absolument pas ce genre de musique... punk mais marrante à la fois, avec des textes complètement absurdes et un univers en soi. Enfin voilà, c'était quelque chose qui dit mais on va cacher ça pendant toutes ces années. Et Jean-Luc connaissait ça, mais à la fin, il avait une très très grande culture musicale. Il écoutait très bien, il écoutait les Beatles, des choses très classiques, mais en même temps des trucs américains, les Stooges. Et il m'a fait découvrir énormément de choses. Et comme il a vu que j'avais peut-être une appétence pour cette chose-là, il a toujours eu un côté, ça c'est quelque chose qu'il a eu toute sa vie, mais un côté très passeur en fait, très partageur sur sa culture. Pas que avec moi, avec des gens un peu plus jeunes, il avait ce côté un peu... pas paternaliste, mais un peu grand frère, de dire « Ah, tu devrais découvrir telle chose, à prêter des livres, à prêter des disques. » et là, je viens de réaliser qu'en fait, c'est aussi un peu son métier à la médiathèque. C'était un peu ça aussi, quoi. C'était les témoignages que j'ai pu en voir, c'est qu'il était le premier un peu à voir des gens qui rendaient des disques, qui disaient « Ah, t'as écouté ça, qu'est-ce que t'en as pensé ? Tu devrais écouter peut-être telle autre chose aussi. » des gens qui n'avaient peut-être pas forcément demandé quoi, ou alors se faire rétrimander en disant « Non, ça, t'as écouté ça, c'est de la merde, écoute plutôt telle autre chose. » Ça, c'est des témoignages que j'ai pu voir ensuite après sur le site internet où il y avait des gens qui pouvaient laisser des messages. Certaines personnes ont raconté ce type de souvenirs en fait, qu'ils pouvaient avoir. Donc voilà, Jean-Luc avait un côté un peu passeur, et moi, comme j'étais curieux, ça tombait bien. Et en fait, après, on a eu un rapport un peu d'égal à égal, où moi, je pouvais éventuellement aussi, de mon côté, avoir des goûts qui pouvaient être autres que les siens, et lui faire découvrir des choses. Enfin, on a toujours eu un côté très, très partageur, en fait, de culture. Quoi.
Et d'ailleurs, tu me parlais du côté provoque de Jean-Luc. C'était quel genre d'élève, et toi, quel genre d'élève tu étais?
Alors, on va peut-être dire que Jean-Luc m'a dévergondé. Jean-Luc avait un côté très... il doit avoir un côté très provoque en tant que lycéen. Après, ça peut-être évolué aussi. Provoque, mais pas méchant, quoi. Enfin, c'était un côté un peu insolent, mais... insolent mais sage, on va dire, quand même. C'était pas du genre à aller foutre le bordel dans la classe, mais il aimait bien se faire remarquer, et des fois, l'insolence ou le côté provoque, c'était une de ses façons, une de ses armes, dans ce sens-là. Ça allait pas plus loin que du type, ce que je racontais sur le dessin avec l'éléphant qui rote, quoi. Mmh. C'était une blague puérile, et il allait pas aller insulter quelqu'un ou quelque chose comme ça, quoi. Et après, peut-être que dans la musique, il pouvait aussi avoir un côté peut-être plus punk, un peu plus libéré après, avec l'âge. Au lycée, il y a eu des épisodes. Enfin, il avait un côté peut-être populaire dans sa classe, justement grâce de ces épisodes-là. Je sais qu'il y a une chose. Alors moi, j'étais plus dans sa classe. Qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais redoublé ma seconde, mais l'année suivante, c'est Jean-Luc qui a redoublé sa seconde. Donc, il a pas bien bossé non plus. Et donc, on s'est retrouvé en fait une seule année ensemble dans la même classe, mais après, on est resté au lycée à un niveau décalé. Donc, moi, j'ai quitté le lycée avant lui. Donc, on est resté vraiment 3 années entières dans le même lycée. Et dans ces dernières années, je sais qu'ils devaient faire un exposé. Ils avaient le choix en histoire géo pour faire un exposé sur un pays. Et Jean-Luc avait choisi le Zimbabwe. Et son exposé s'était terminé. Il avait dû chanter l'hymne du Zimbabwe. Il expliquait. Enfin, il y avait à la fois des faits avérés, mais en même temps, il avait inventé des trucs du fait que le nom du pays venait du fait qu'on ramasse une savonnette et qu'elle glisse entre ses mains et que ça fait zim, qu'elle tombe par terre, ça fait bam, et puis que quand on voit la savonnette sale, on fait boué. Voilà. Je ne sais pas si c'est. Ouais. Ça explique peut-être pourquoi il a redoublé sa seconde. Je ne sais plus si c'était cette année-là, mais je sais qu'apparemment, cet épisode de chanter l'hymne du Zimbabwe en classe a beaucoup marqué les gens de sa classe et qui en ont reparlé pendant longtemps après, quoi. Voilà, c'était pas de la provoque méchante. Après, je pense que si les profs avaient de l'humour, ils l'acceptaient. S'ils n'avaient pas d'humour, ils pouvaient mal le prendre. Je sais qu'il y a eu, pendant sa terminale, une espèce de bras de fer avec son prof de philo, où Jean-Luc, justement, avait un côté très mauvais fils. Enfin, je ne sais pas comment il expliquait, mais il attendait peut-être beaucoup de ce cours de philo. Il a été très, très déçu par les enseignements. Et Jean-Luc avait déjà aussi quand même une bonne culture. Alors, je ne sais pas s'il avait une culture philosophique, mais il avait les armes intellectuelles pour pouvoir répondre au prof de philo et pouvoir un peu s'opposer à lui. Et apparemment, ça a quand même pris des proportions assez poussées. Ça faisait un peu bras de fer. Et je crois que ça finissait un peu en débat dans la classe. Et où ça n'a pas aidé son année. Et Jean-Luc s'est un peu braqué sur certains points. Et je crois qu'il s'est vraiment bien planté en philo au bac. Et il a loupé son bac. Et en fait, il a dû refaire une terminale. Il a eu, je crois, une autre prof de philo. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais je sais que c'était assez conflictuel. C'est le prof de philo que j'avais eu aussi. Et voilà, j'avais des souvenirs de courriers où il était assez énervé contre ses cours de philo qui ne correspondaient pas à ses attentes. Quoi.
Il y a un cadavre sur la plage. Allons voir. Ah, regarde qui c'est. Mon Dieu, c'est Laura Palmer.
Vous étiez rapprochés assez facilement quand vous étiez ensemble. En gros, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que je sais que, par exemple, sur YouTube, il y a une vidéo que vous avez faite avec Jean-Luc, qui est une version suédée, donc c'est-à-dire faite à l'arrache, de Twin Peaks, qui était sorti à l'époque et qui était un énorme succès, qui est toujours dispo sur YouTube. D'ailleurs, on te voit justement en tant qu'adolescent, incarner tout un tas de personnages. Donc, il y avait de la vidéo, il y avait de la BD, il y avait de la musique. Tu sais dans quel ordre un petit peu ça venait? Est-ce que c'était à l'envie? Est-ce que vous étiez juste des adolescents qui voulaient s'exprimer, en fait, tout simplement?
Bah, plutôt Jean-Luc. En fait, c'est vraiment Jean-Luc qui initiait les choses. En fait, Jean-Luc était scout. Et dans le cadre de ses activités scout, qui se sont terminées pendant ses années lycée, en fait. Moi, je l'ai connu, il finissait peut-être, il arrêtait, en fait, d'être scout. Il s'estimait peut-être trop âgé. Mais pendant ses années scout, il a participé à des soirées, des choses de scout que je ne connais pas bien, mais des soirées autour du feu de camp où il jouait la guitare. En fait, il avait une guitare et il faisait des reprises et de morceaux divers, notamment je crois des Beatles, des choses comme ça, et des chants scouts aussi. Mais il a fait ses premières armes en public à jouer de la musique chez les scouts. C'est là qu'il s'est un peu dégrossi par rapport à ça. Et chez lui, il apprenait des morceaux, puis il apprenait les morceaux qu'il écoutait. Donc c'était des choses assez simples. Des fois, c'était des trucs de vieux rock. Enfin, c'est des noms qui ne me disent plus trop grand-chose, mais les Trogs, Lou Reed, des choses qui n'étaient pas trop compliquées à jouer. Et moi, ça m'épatait, quelqu'un qui arrivait à jouer de la guitare comme ça, qui faisait des accords. Enfin, je ne connaissais personne d'autre que lui qui jouait la guitare. C'est étonnant, mais c'est le cas. Et il m'a joué aussi des compositions personnelles. Des morceaux qu'il avait écrits peut-être chez les scouts ou qu'il avait déjà dû interpréter. Alors, c'était très naïf, hein, c'était des trucs pour dire la guerre c'est mal et la paix c'est bien, quoi. Mais moi ça m'épatait que quelqu'un de 15-16 ans compose ses propres chansons. C'était une des choses que quand j'étais allé chez lui, il m'avait fait écouter, il avait joué de la guitare, tout ça, et il avait dit c'est bien, tu devrais les enregistrer pour en garder une trace ou. Je crois que c'est né comme ça. Je ne sais pas si c'est moi qui ai dû lui dire. Enfin, je ne devais pas être le seul, je pense. Et il a dû enregistrer une cassette avec quelques chansons et on se l'est passé au lycée ensuite, après. Ça a circulé un petit peu, quoi. Et donc, ça lui a donné envie de continuer là-dessus. Et des fois, de jouer des trucs. Donc, des fois, moi, ça me donnait aussi envie de... Ça avait l'air simple, en fait, de jouer de la musique. Donc, moi, j'avais juste un petit xylophone, un reste de solfège. J'avais fait des cours d'orgue électrique à l'époque, donc j'avais quelques vagues notions de solfège, donc j'avais dit on peut essayer de faire de la musique ensemble, donc ce qu'on avait essayé de faire. Un peu plus tard, je me suis acheté une guitare électrique, et là c'était plus du bruit qu'on faisait plus que de la musique, mais voilà, c'est Jean-Luc qui avait l'aspect plus mélodique, il savait composer, il avait des notions de solfège, il savait jouer du piano, il avait pris des cours de piano, et moi j'étais plus sur le côté un peu bruitiste qui allait avec les goûts musicaux de l'époque, Sonic Youth, ce genre de choses. C'était un peu... Voilà, les deux s'assemblaient, puis on essayait de faire des choses ensemble. C'était très brouillon et ça n'avait pas d'intérêt. En fait, lui, il en a gardé quelques traces enregistrées. Il a encore des bouts de ce genre de choses sur des vieilles cassettes. Mais après, c'est lui qui s'est affirmé tout seul. Et c'est tant mieux qu'il se soit affirmé tout seul. Mais voilà, ça a été une des activités qu'on a pu faire. Le dessin, en fait, c'était plus des lectures partagées. On ne dessinait pas vraiment ensemble. C'était plus Jean-Luc qui me montrait ce qu'il faisait. Et puis, je donnais peut-être plutôt mon avis. Mais après, ça, c'était plutôt des choses qu'on faisait chacun de notre côté, qu'on mettait en commun après. Et puis après, les films vidéo, quand on a eu un caméscope, la possibilité d'utiliser un caméscope, alors c'était plutôt les parents de Jean-Luc qu'on avait un, on s'est beaucoup amusé à faire des petits films, comme avant, des gens pouvaient faire avec du Super 8, mais voilà, on avait accès à la vidéo, on pouvait faire du montage assez sommaire en le branchant sur un magnétoscope. Donc on s'amusait à faire des films, c'est pareil, ça volait vraiment pas très haut, c'est des histoires... absurde. Donc là, Twin Peaks, le Twin Peaks suédois, c'est quelque chose qui a été fait vraiment beaucoup plus tard, ça. Mais dans les premières années, c'était des films où il y avait beaucoup de personnages. C'était l'occasion de faire venir tous les amis de Jean-Luc. Ça m'a permis de rencontrer des connaissances de son ancien collège, de ses amis scouts. Voilà. Tout ce groupe, en fait, c'était Jean-Luc qui était le point central. En fait. Ça restait des amis de Brick and Brock, de rassembler, mais... on se voyait en tant qu'ami commun de Jean-Luc, on ne se voyait pas en dehors du fait que Jean-Luc soit présent. C'était lui qui était un peu le rassembleur par rapport à ça. Donc c'était l'occasion on passait des journées entières à faire ça, ou des fois des week-ends entiers, ou alors des bouts de vacances. Et généralement après ça finissait avec le visionnage du film qui était toujours beaucoup trop long et beaucoup trop pénible à regarder, mis à part pour les gens qui y avaient participé, où nous ça nous faisait beaucoup rigoler. Donc j'ai toujours les cassettes vidéo, il faut que je les numérise. Mais je pense que pour les gens en dehors de nous qui avons participé, ça n'a vraiment pas d'intérêt. C'est même assez pénible à regarder, je pense. Le son est vraiment atroce. Ça crie beaucoup. Il y avait des systèmes de... Mais bon, c'est rigolo à faire. Il y avait le magnéto-cassette qui était derrière la caméra pour faire une musique en off. Mais le son n'est pas bien calibré. Donc, en fait, on n'entend pas les dialogues. Enfin, c'est atroce. C'est atroce à faire, quoi. Maintenant, avec les moyens du numérique, je pense que ceux qui veulent vraiment faire ce genre de choses ont d'autres moyens à disposition que... Que nous, c'était très artisanal, mais bon, ça nous occupait pas mal pendant ce temps-là, on faisait pas d'autres conneries.
Donc je vous rappelle les règles du jeu. le bras de fer, vous savez très bien comment on y joue. Que le meilleur gagne. Enfin, je laisse à l'arbitre le soin de le faire. Tenez la prise. Tenez la prise. Vous êtes pour l'honneur, vous êtes pas pour l'honneur. Go! Allez-y! Allez, coucou! Allez!
Que tu l'avais dit, donc vous passez une année ensemble, donc en seconde.
Ouais, on se voit quasiment presque tous les jours de la semaine, tous les jours, au moins on est au lycée, puis le week-end en plus on se voit assez souvent pour... Moi je viens souvent chez lui parce que moi je suis mobile, je peux venir jusqu'au Mans, lui par contre il n'a pas de permis, il n'a pas de mobylette, ni... ça lui arrive une fois de venir jusqu'à vélo, mais moi j'habitais à 10 km du Mans, donc c'est plus souvent moi qui viens chez lui. Et donc, ses parents me reconnaissent maintenant. Je suis souvent fourré chez lui. Et donc, pendant une année, on se voit vraiment beaucoup. Et ça se prolonge après l'année suivante. Même on se voit dans les cours de récré. Et puis, le soir et le week-end. Mais on se voyait très, très souvent le week-end, tous réunis. Même si on n'avait peut-être pas forcément tous d'affinité. On se voyait et on faisait... ce qu'on appelait souvent les soirées vidéo, c'est qu'on louait une cassette VHS et qu'on une ou deux. Alors des fois, quand on allait au vidéoclub, on avait une louée, une gratuite. Donc on passait nos soirées à regarder des films vraiment pas bonne qualité. Et c'est l'occasion de bouffer des chips et de boire du coca bon marché, quoi.
Et on se dit une vie de lycéen, quoi. C'est-à-dire, en gros, tu regardes des conneries à la télé, tu manges tes chips.
On était des lycéens.
Non, mais oui, mais c'est...
À l'époque, on n'avait pas de soirée, on ne buvait pas d'alcool. Enfin, je ne sais même pas si ça nous était interdit. On n'avait même pas spécialement envie de ça, quoi. C'était même pas le truc. C'était vraiment presque de post-collégien. On peut même pas dire presque de lycéen. On était encore vraiment pas dégrossis. Et vraiment, peut-être que ça a changé après nos années lycée, quoi. Mais le week-end, quand on allait des fois au cinéma, après, on finissait nos soirées au Quick ou au McDo. Parce que dans les bars, en fait, les gens fumaient et il y avait trop de bruit. Donc, en fait, on préférait plutôt aller au Quick, c'était moins cher. Et puis, on pouvait rester autant de temps qu'on voulait. Il y avait de la lumière et on pouvait discuter tranquillement, quoi.
Au début des années 90, vous alliez beaucoup à des... Est-ce que vous alliez beaucoup à des concerts et qu'est-ce que vous alliez voir, notamment, comme concert ?
Je crois que le premier concert que je suis allé voir, ça devait être peut-être 92 ou 93. C'était les Little Rabbits qui avaient fait un concert au caveau de l'Inventaire. C'était en dessous Radio Alpa. En fait, c'était au centre Jacques Prévert dans le Vieux-Mans. Il y avait une toute petite salle de concert. Et je crois que j'étais allé voir ce groupe-là parce que j'avais entendu leur nom dans l'émission de Bernard Lenoir sur France Inter. Voilà, c'était encore un jeune couple. Ils n'avaient pas encore sorti de premier album. Donc pour remettre dans le contexte, c'est Little Rabbits, c'est le groupe qui ensuite après a accompagné Catherine sur scène. Voilà, c'était, je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était Cowboy, c'était quelque chose avec Cowboy dans leur nom, mais ils ont sorti plusieurs disques chez, je crois que c'était chez Rosebud. Enfin, ils ont eu une petite célébrité ensuite, mais c'était devenu... voilà, moi j'ai vu quand ils avaient sorti à l'époque en concert, ils n'avaient sorti qu'une seule démo, et c'était mon premier concert, j'étais allé voir tout seul. En dehors des concerts gratuits, des terrasses de l'été ou des podiums européens, ce qu'on pouvait voir des fois sur la place des Jacobins, où il y avait un peu Gilbert Montagnier ou ce genre de groupe qui venait faire des concerts gratuits pour distribuer des Bob Ricard à la foule, quoi. Voilà, la plupart des gens, leur premier concert, c'était ça, quoi. Et donc, en fait, pour revenir sur la scène au Mans, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu des groupes. Je sais qu'il y a eu des groupes. En fait, on est arrivé peut-être dans un moment où c'était vide. Il y a eu quelques groupes, Manceau, Nuclear Device, groupe punk, qui ont eu un semblant de visibilité au niveau national, mais nous, on ne l'a pas connu, quoi. On est passé à côté de ça, où on était trop jeunes, où c'était déjà fini à l'époque, quoi. Donc il existait sans doute peut-être une scène, mais nous, en tant que lycéens, on ne l'a pas vu. Ensuite, après, par la suite, il y a eu j'ai pu voir, peut-être que c'était lié aussi à notre culture, on a découvert plus de choses et on est allé voir des concerts... De groupes qui passaient un peu plus tard. Mais moi, pour moi, c'était presque deuxième moitié des années 90. Et puis, si, quand même, le concert de Dominica, qui a été quand même un événement. Alors, Dominica, nous, on l'avait découvert toujours par Bernard Lenoir sur France Inter.
Bernard Lenoir. Sur l'album de Dominique A, La Fossette.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien.
Je sais que là j'avais entendu ce morceau, enfin on l'avait entendu peut-être chacun chez nous avec Jean-Luc, et le lendemain on a entendu ce truc là, c'est étonnant, enfin, et je l'associe vraiment au fait que je l'associe à Jean-Luc parce que c'est quelqu'un qui fait son disque tout seul chez lui comme Jean-Luc, voilà, et donc Jean-Luc en fait il est pas si loin de ça et il veut tout à fait faire ça aussi quoi. En fait c'est possible de faire un disque tout seul chez soi et c'était quelque chose qui était assez nouveau, et Dominica après a fait beaucoup pour faire connaître Daniel Johnston. Il a fait des reprises et tout, et Bernard Lanvin, on a passé des morceaux, on a parlé aussi, donc qui était, pareil, un artiste un peu hors norme américain, qui avait commencé à sortir ses propres cassettes, qui les distribuait à ses connaissances. Il y avait même un mythe qui racontait qu'il les distribuait dans la rue. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui, quand il avait un crush sur une nana, il écrivait des chansons sur elle, et lui donnait une cassette avec sa chanson, quoi. Après il a pris un acide, il a développé des psychoses, des maladies mentales qui se sont vraiment déclarées, il l'a envoyé à l'HP, il a été soigné après, mais voilà, mais c'était un personnage un peu à part, et Jean-Luc a découvert Dan Johnston par le biais de Dominica je crois, et il est devenu vraiment super fan, et après pendant longtemps on a dit que Jean-Luc était un peu le Daniel Johnston du Mans, quoi, à ce point là quand même, et Jean-Luc est resté fidèle vraiment à son amour de Daniel Johnston vraiment jusqu'au bout, il est allé le voir en concert à Paris, ça a été vraiment un moment super émouvant pour lui à ce moment-là, quoi.
Je me souviens qu'au lycée, il y avait toujours un pélo au fond du bus qui nous emmenait au musée pour reprendre avec sa pauvre guitare pourrie la fille du coupeur de joint d'Hubert Félix Thiéphen. Et moi, tout seul dans mon coin, je rongeais mon frein en me jurant que le jour où j'aurai une guitare, je ne reprendrai jamais, au grand jamais, la fille du coupeur de joint. Je me souviens qu'au lycée, il y avait toujours un pélo au fond du bus qui nous emmenait au musée pour reprendre avec sa pauvre guitare pourrie, la fille du coupeur de joint du père Félix Thiéphen. Pendant que moi, tout seul dans mon coin, je rongeais mon frein en me jurant qu'un jour, un jour oui un jour, quand j'aurai une guitare, je ne reprendrai jamais, au grand jamais, au grand jamais, la fille du coupeur de joint, 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 la fille du coupeur de joint.
La discussion que vous venez d'entendre, c'est une bonne introduction, je trouve, à qui était Jean-Luc. De par la personne, donc Tony, qui a été la plus proche de lui pendant sa vie, puisque une des premières difficultés que j'ai eues dans cette enquête, c'est que depuis sa mort, les parents de Jean-Luc, qui sont toujours vivants, et ainsi que ses frères et sœurs, parce qu'ils étaient une famille de 4, donc une grande sœur Brigitte, un grand frère Emmanuel et un petit frère Étienne, donc Tony m'a dit qu'il refusait catégoriquement toute interview. Je sais qu'ils ont connaissance de mon projet, qu'ils ne s'y opposent pas. S'ils m'écoutent, je les salue en tout cas, et j'espère que ça leur plaira. Donc on va retrouver Tony, ce sera une espèce de fil rouge pendant toute cette enquête, puisque le week-end que j'ai passé dans sa famille, je dois avoir peut-être une dizaine d'heures de rush, c'est beaucoup. Et on a balayé à peu près tous les aspects de la vie de Jean-Luc. Il y aura aussi des interviews de son aîné Adèle et de sa compagne Catel qui ont connu Jean-Luc. Mais pour l'instant, je vais laisser ça un petit peu de côté, on les retrouvera après parce que, en fait, pour tout vous expliquer, le journal de Jean-Luc qui est en ligne, Tenia Diary, il va de 95, donc quand Jean-Luc avait 20 ans, jusqu'à 2011, donc l'année de son décès, avec un gros trou entre 2004 et 2010. Et j'ai voulu explorer un petit peu ce qu'il y avait eu avant, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et le début de la vie adulte de Jean-Luc, jusqu'à 97, qui a été une année charnière pour lui, où il est monté sur scène pour la première fois, et où il a attiré l'attention d'autres personnes qui lui ont permis un peu d'évoluer dans ces sphères-là. Tony disait tout à l'heure que
Il n'y avait pas réellement une bande d'amis en tant que telle très soudée, mais que c'était une agglomération de connaissances autour de Jean-Luc qui était un peu le point central. Et j'ai voulu commencer par retrouver un peu ces gens-là. C'est-à-dire les gens qui faisaient des vidéos avec lui, qui étaient ses amis, qui sont partis en vacances avec lui, qui ont créé aussi avec lui. Et j'ai retrouvé quasiment la plupart. Et pour commencer, je vous emmène à Chartres. Si tu veux te présenter.
Oui, bah donc Gildas, ancien ami, bon ami de Jean-Luc. Je vais vous raconter un peu les souvenirs qu'on a en commun.
C'était le premier épisode de Jean-Luc. N'hésitez pas à me suivre sur Jean-Luc Podcast sur Twitter et Instagram. Je mettrai chaque jour des photos, des vidéos et des archives de Jean-Luc.
C'est la meilleure manière de gagner, en fait, c'est de vivre.
Et je vous dis à dans 15 jours pour le second épisode de Jean-Luc.